Chapitre 18. Question. Permets-moi de vérifier si je te suis toujours. Ce qui semble émerger, c'est une vision du monde empreinte d'égalité et d'équanimité, où toutes les nations se soumettent à un seul gouvernement mondial et où tous les gens se partagent les richesses du monde. Réponse. Rappelle-toi, quand tu parles d'égalité, que nous voulons dire chance égale et non égalité de fait. L'égalité réelle ne sera jamais atteinte, et sois-en reconnaissant. Question. Pourquoi ? Réponse. Parce que l'égalité est l'uniformité, et la dernière chose dont le monde ait besoin, c'est l'uniformité. Non, je ne suis pas en train de proposer un monde d'automates, dont chacun recevra des parts identiques d'un gouvernement central à la Big Brother. Je parle d'un monde dans lequel deux choses seront garanties. Petit 1, la satisfaction des besoins fondamentaux. Petit 2, la chance de s'élever. Malgré toutes les ressources de votre monde, malgré toute votre abondance, vous n'avez encore réglé ces deux choses simples. Au lieu de cela, vous avez piégé des millions de gens au bas de l'échelle socio-économique et conçu une vision du monde qui les y maintient systématiquement. Chaque année, vous laissez mourir des millions de gens par manque de choses simples et fondamentales. Malgré toute la magnificence du monde, vous n'êtes pas arrivé à être suffisamment magnifique pour empêcher les gens de mourir de faim et encore moins de s'entretuer. Vous laissez vraiment des enfants mourir de faim devant vous. Vous tuez vraiment des gens parce qu'ils sont en désaccord avec vous. Vous êtes des primitifs. Question. Et nous nous croyons si avancés ? Réponse. Le premier signe distinctif d'une société primitive, c'est qu'elle se croit avancée. Le premier signe distinctif d'une conscience primitive, c'est qu'elle se croit éclairée. Question. Alors, résumons. Pour grimper sur le premier barreau de l'échelle, où ces deux garanties fondamentales sont accordées à chacun, réponse, deux changements seront nécessaires. L'un de votre paradigme politique, l'autre de votre paradigme spirituel. Le mouvement vers un gouvernement mondial unifié comprendrait un tribunal mondial grandement investi de pouvoir afin de résoudre des conflits internationaux, ainsi qu'une force de maintien de la paix pour renforcer les lois selon lesquelles vous choisissez de vous gouverner. Le gouvernement mondial comprendrait un congrès des nations, deux représentants de chaque pays de la Terre et une assemblée du peuple, avec une représentation directement proportionnelle à la population d'un pays. Question. C'est exactement ainsi que le gouvernement américain est établi, avec deux chambres, l'une qui fournit une représentation proportionnelle et l'autre une voix égale à tous les États. Réponse. Oui. Votre constitution américaine a reçu l'inspiration de Dieu. Il faut insérer le même équilibre des pouvoirs dans la nouvelle constitution mondiale. Il y aurait donc un bras exécutif, un bras législatif et un bras judiciaire. Chaque pays garderait sa police de maintien de la paix à l'interne, mais toutes les armées nationales seraient démobilisées, tout comme chacun de vos États a démobilisé son armée et sa marine en faveur d'une force fédérale de maintien de la paix au service de tout le groupe d'États que vous appelez maintenant un pays. Les pays se réserveraient le droit de former et d'appeler leurs propres milices à brève échéance, tout comme vos États ont chacun le droit constitutionnel de garder et d'activer une milice d'État. Et, tout comme le font vos États à présent, chacun des 160 États-nations de l'Union des Nations aurait le droit de se séparer de l'Union après un vote populaire, bien que leur raison éventuelle de le faire me dépasse, car son peuple vivrait dans une plus grande sécurité et une plus grande abondance que jamais. Question. Et une fois de plus, pour ceux d'entre nous qui sont lents, une telle fédération mondiale unifiée engendrerait ? Réponse. Petit 1. La fin des guerres entre pays et la résolution de conflits par le meurtre. Petit 2. La fin de la pauvreté abjecte, de la mort par la faim, de l'exploitation massive des gens et des ressources par ceux qui sont au pouvoir. Petit 3. La fin de la destruction systématique de l'écologie terrestre. Petit 4. L'abandon de la lutte incessante pour acquérir plus gros, plus imposant et plus. Petit 5. Une occasion véritablement égale pour tous les gens de s'élever à l'expression la plus élevée du soi. Petit 6. Une fin à toutes les formes de limitation et de discrimination qui retiennent les gens, que ce soit dans le logement, au travail, dans le système politique ou dans les relations sexuelles. Question. Ton nouvel ordre mondial exigerait-il une redistribution de la richesse ? Réponse. Il n'exigerait rien. Il produirait, volontairement et automatiquement, une redistribution des ressources. Par exemple, tous les gens pourraient recevoir une éducation convenable. Tous les gens pourraient avoir une chance égale d'utiliser cette éducation au travail, de mener des carrières qui leur apporteraient la joie. Tous les gens auraient un accès garanti aux soins de santé chaque fois et de la manière dont ils en auraient besoin. Tous les gens auraient la garantie de ne pas mourir de faim ou de ne pas devoir vivre sans vêtements ou logements adéquats. Tous les gens auraient droit à la dignité fondamentale de la vie afin que la survie ne soit plus jamais un problème, de sorte que de simples formes de confort et de dignité fondamentale soient fournies à tous les êtres humains. Question. Même s'ils ne font rien pour les gagner ? Réponse. Le fait que tu penses que ces choses doivent être gagnées est fondé sur l'idée que tu dois gagner ta place au paradis. Mais tu ne peux gagner ta place dans les bonnes grâces de Dieu, et tu n'as pas à le faire, car tu y es déjà. C'est une chose que tu ne peux accepter, car c'est une chose que tu ne peux donner. Lorsque tu apprendras à donner inconditionnellement, c'est-à-dire à aimer inconditionnellement, alors tu apprendras à recevoir inconditionnellement. Cette vie a été créée en tant que véhicule de cette expérience. Essaie d'épouser cette pensée. Les gens ont droit à la survie de base, même s'ils n'ont rien, même s'ils n'apportent rien. La survie dans la dignité est l'un des droits fondamentaux de la vie. Je t'ai donné suffisamment de ressources pour pouvoir garantir cela à chacun. Tout ce que tu as à faire, c'est de partager. Question. Mais alors, cela empêcherait les gens de gaspiller leur vie, de glander en récoltant des avantages sociaux ? Réponse. Tout d'abord, il ne t'appartient pas de juger ce qu'est une vie gaspillée. Une vie est-elle gaspillée si une personne ne fait rien d'autre que de s'allonger à lire de la poésie pendant 70 ans, pour ensuite ne produire qu'un sonnet qui ouvrira une porte de compréhension et de clarté à des milliers de gens ? Une vie est-elle gaspillée si une personne ment, triche, se livre à des combines, fait du tort, manipule et blesse d'autres gens toute sa vie, puis se rappelle ensuite quelque chose de sa nature véritable et par conséquent se rappelle peut-être une chose qu'elle a passé des vies entières à essayer de se rappeler, et ainsi passe, à la fin, au niveau suivant de l'évolution. Cette vie est-elle gaspillée ? Il ne t'appartient pas de juger le cheminement d'une autre âme. Il t'appartient de décider qui tu es, et non qui un autre a été ou n'a pas été. Alors, tu demandes ce qui empêcherait les gens de se contenter de gaspiller leur vie, de glander en récoltant des avantages sociaux, et la réponse est « rien ». Question. Mais crois-tu vraiment que ça fonctionnerait ? Crois-tu que ceux qui contribuent vraiment ne développeraient aucun ressentiment vis-à-vis de ceux qui ne contribuent pas ? Réponse. Oui, ils en développeraient, s'ils ne sont pas éclairés. Mais ceux qui sont éclairés considéreraient ceux qui ne contribuent pas avec une grande compassion, et non avec du ressentiment. Question. De la compassion ? Réponse. Oui. Parce que ceux qui contribuent s'apercevraient que ceux qui ne contribuent pas manque la plus grande chance et la plus grande gloire, à savoir la chance de créer et la gloire de faire l'expérience de l'idée la plus élevée de qui ils sont vraiment. Et ceux qui contribuent sauraient que c'était une punition suffisante pour leur paresse si, en effet, la punition était requise, ce qu'elle n'est pas. Question. Mais ceux qui contribuent vraiment ne seraient-ils pas vexés de voir que les fruits de leur labeur leur sont enlevés pour être donnés aux paresseux ? Réponse. Tu n'écoutes pas. Tous recevraient des portions de survie minimales. Ceux qui ont davantage recevraient une chance d'offrir 10% de leurs gains afin de rendre cela possible. Quant à la façon dont on déciderait du revenu, le marché ouvert déterminerait la valeur des contributions, tout comme il le fait actuellement dans ton pays. Question. Mais alors, nous aurions encore des riches et des pauvres, tout comme aujourd'hui, ce n'est pas de l'égalité. Réponse. Mais c'est une chance égale. chacun aurait la chance de vivre une existence de base sans s'inquiéter de la survie. Et chacun recevrait une chance égale d'acquérir la connaissance, de développer des habiletés et d'utiliser ses talents naturels dans le lieu de joie. Question. Le lieu de joie? Réponse. C'est ainsi qu'on appellera alors le lieu de travail. Question. Mais n'y aura-t-il pas, tout de même, de l'envie? Réponse. De l'envie, oui. De la jalousie, non. L'envie est une émotion naturelle qui te pousse à lutter pour être davantage. C'est l'enfant de 2 ans qui a hâte et qui s'empresse d'atteindre la poignée de porte que son grand frère peut atteindre. Il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal à l'envie. C'est une motivation. C'est un pur désir. Elle donne naissance à la grandeur. La jalousie, par contre, est une émotion alimentée par la peur, qui fait qu'on veut que les autres aient moins. C'est une émotion souvent fondée sur l'amertume. Elle provient de la colère et mène à la colère. Et elle tue. La jalousie peut tuer. Quiconque s'est trouvé dans un triangle de jalousie sait cela. La jalousie tue. L'envie donne naissance. Les envieux recevront toutes les chances de réussir à leur façon. Personne n'aura d'empêchement économique, politique, social. Pas pour des motifs de race, de sexe ou d'orientation sexuelle. Pas pour des motifs de naissance, de statut social ou d'âge. Pour aucune raison. La discrimination, pour quelque raison que ce soit, ne sera tout simplement plus tolérée. Et oui, il y aura peut-être encore des riches et des pauvres, mais il n'y aura plus d'affamés et d'indigents. Tu vois, on n'enlèvera pas l'incitation de la vie. Seulement le désespoir. Question. Mais qu'est-ce qui garantira que nous aurons suffisamment de contributeurs pour supporter, entre guillemets, ceux qui ne fournissent pas de contributions? Réponse. La grandeur de l'esprit humain. Question. Oh. Réponse. Contrairement à ta sombre croyance apparente, la personne moyenne ne se satisfera pas de la simple subsistance. De plus, toute l'incitation de la grandeur changera lorsque viendra le second changement de paradigme, le changement spirituel. Question. Qu'est-ce qui pourrait provoquer un tel changement? Il ne s'est pas encore produit en 2000 ans d'histoire. Réponse. Plutôt 2 milliards d'années d'histoire. Question. De la planète? Pourquoi se produirait-il maintenant? Réponse. Parce qu'avec le changement, par rapport à la survie matérielle, avec l'élimination du besoin de réussite forte, afin d'acquérir un minimum de sécurité, il n'y aura pas d'autre raison d'atteindre, de se détacher, de devenir magnifique, sinon l'expérience de la magnificence elle-même. Question. Et ce sera une motivation suffisante? Réponse. L'esprit humain s'élève devant une chance véritable. Il ne tombe pas. L'âme cherche une expérience plus élevée d'elle-même, et non une expérience inférieure. Quiconque a fait l'expérience de la vraie magnificence, ne serait-ce qu'un instant, sait cela. Question. Et le pouvoir? Dans cette réorganisation particulière, il y en aurait encore qui posséderaient une richesse et un pouvoir extraordinaire. Réponse. Les gains financiers seraient limités. Question. Dis donc, c'est reparti. Veux-tu expliquer comment ça pourrait fonctionner avant que je t'explique pourquoi ça ne marchera pas? Réponse. Oui. Tout comme il y aurait des limites inférieures aux revenus, il y aurait également des limites supérieures. D'abord, presque tout le monde versera 10% de ses revenus au gouvernement mondial. C'est la déduction volontaire de 10% que j'ai déjà mentionnée. Question. Oui, la vieille proposition de l'impôt uniforme. Réponse. Dans votre société actuelle, à cette époque-ci, cela devrait prendre la forme d'un impôt parce que vous n'êtes pas suffisamment éclairé pour voir que cette déduction volontaire, pour le bien commun de tous, est dans le meilleur de vos intérêts. Mais lorsque se produira le changement de conscience que j'ai décrit, vous trouverez tout à fait normal cette déduction ouverte, bienveillante et librement offerte à même votre récolte. Question. Il faut que je te dise une chose. Puis-je t'interrompre ici pour te dire quelque chose? Réponse. D'accord, vas-y. Question. Cette conversation me semble très étrange. Je n'ai jamais pensé que j'aurais une conversation avec Dieu dans laquelle Dieu se mettrait à recommander des politiques. Non mais vraiment, comment vais-je convaincre les gens que Dieu est en faveur de l'impôt uniforme? Réponse. Eh bien, je vois que tu continues d'insister pour considérer cela comme un impôt. Mais je comprends cela, car l'idée de tout simplement offrir, de partager 10% de ton abondance te semble étrangère. Mais pourquoi trouves-tu difficile de croire que j'aurais une idée là-dessus?